chose. En deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. Ta soeur est aux États, ton frère est au Mexique. Ils font de l'argent là-bas pendant que tu chômises. T'es né pour un petit pain, c'est ce que ton père t'a dit. Chez les Américains, c'est pas ça que t'aurais appris. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose.
Eh bien oui, on voulait commencer comme ça parce que c'est parti les amis, c'est depuis ce matin officiellement et il y a quelques minutes à peine, les bureaux officiels, les bureaux de vente officiels, les magasins de la nouvelle Société québécoise de cannabis ont ouvert leurs portes et la file est longue. Pouvez-vous croire ça? Le monde attend en ligne. T'sais, moi personnellement, j'aille bien bien ça, attendre en ligne, mais ça a l'air que ça a du monde, ça dérange pas du monde. Alors là, on va en discuter ce matin parce que toute notre programmation, d'ailleurs, au 98.5 ce matin est axée sur cette grande nouvelle. C'est quand même pas rien. On n'avait pas réalisé, je sais pas vous, là, mais moi, j'avais pas réalisé lors de la dernière élection fédérale à quel point c'était urgent dans les priorités des libéraux fédéraux de mettre ça légal. Bon, personnellement, j'y serais allé avec une décriminalisation d'abord. Peut-être, vous savez, un processus par étape, avant d'y aller comme ça, d'ouvrir des magasins, de donner cette espèce de patate chaude aux provinces qui ne l'ont pas vu d'un bon œil arriver, cette nouvelle loi qui légalise le cannabis. Mais là, c'est ça. Fait, qu'est-ce que vous voulez? Il faut vivre avec. Notre angle, nous, aujourd'hui, ce matin, avec mes invités que je vais vous présenter à l'instant, c'est les parents. Je voulais qu'on parle de nos jeunes, surtout, parce qu'on sait que si vous avez 18 ans et plus, c'est légal. Bon. Vous pouvez boire aussi, vous pouvez texter au volant. Il y a bien des affaires qu'on peut faire, finalement, qui sont peut-être pas éthiques non plus, qui sont peut-être pas bonnes pour nous, peut-être pas bonnes pour les autres non plus, mais qui sont tolérées, qui sont même légales. Le cannabis, maintenant, s'ajoute à cette liste. Mais pour les jeunes, il faut redire à nos jeunes que c'est 18 ans et plus, puis que pour eux, en théorie, s'ils ont 13, 14, 15 ans, ça reste un produit illégal. D'où la grande hypocrisie, vous serez d'accord, de notre société. Il y a beaucoup de parents qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont écrit. Il y en a même qui m'ont téléphoné de la propre école où mes filles vont. Là. Puis on s'en parle entre parents, on s'en parle entre voisins dont les enfants traînent ensemble depuis des années. Puis on va essayer d'éviter de se mettre la tête dans le sable ce matin, là, puis de penser que nos enfants sont parfaits, puis que non, pas le mien. Le mien, il fume pas. Y a-tu demandé? Oui, j'ai demandé, il m'a dit non. Ah, ben, là, on est correct. On ferme le dossier. Les amis, quand on dit qu'il y a comme un jeune sur deux de 12 ans et plus qui a déjà essayé de fumer du pot, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu te rendes à l'évidence. C'est un problème. Et pour beaucoup de parents, je peux vous dire, là, les derniers jours, plus ça avançait là, et plus les parents sont inquiets. Alors, je vais vous donner la parole ce matin. Vous me direz comment vous voyez ça. Quel genre de communication vous avez avec vos jeunes là-dessus? Je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez peur que les jeunes se mettent à fumer s'ils ne fument pas déjà? Et ceux dont les jeunes fument déjà, pensez-vous que ça va augmenter leur consommation? Pour en discuter, le Dr John Sader est avec nous. Il est médecin de famille spécialisé en traitement des dépendances. On l'a reçu plusieurs fois au cours de la dernière année. Dr Sader, merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Pour vous, c'est une inquiétude. Vous l'avez plusieurs fois verbalisé. Donc, ce matin, c'est encore...
Écoutez, on est devant un fait. Faut faire avec. Puis moi, ce que la vie va montrer, que quand on me donne des citrons, je fais de la limonade. Fait que je vais m'ajuster, on va s'ajuster, puis on va essayer de peut-être tirer du... Il y a peut-être moyen de tirer du positif de tout ça. On n'a jamais parlé plus de drogue dans notre société que depuis la dernière année. On en parle plus. Peut-être qu'on va être capable de commencer à parler des vraies affaires puis faire les choses différemment. C'est ça que j'aimerais voir, moi.
Frédéric Fortier est directeur de l'organisme en prévention des dépendances, l'Arc-en-Ciel. Merci Frédéric d'être avec nous. Comment voyez ça, vous? Parce que vous, vos clientèles, c'est les écoles primaires, secondaires, les parents, vous faites de l'intervention sur le terrain. Plus de jobs, là. Hein?
Effectivement, ça met en lumière les services de prévention qui existent dans plusieurs localités au Québec. C'est une belle occasion pour s'asseoir sur le divan puis jaser. Donc, on voit que, on souhaite que les parents, les enfants jasent ensemble. C'est une belle occasion pour les parents de se mettre en mode apprenant aussi. Juste de dire j'y ai dit.
Non, il faut écouter aussi.
Effectivement.
Patrick Lagacé est avec nous. Bonjour, Patrick, chroniqueur.
Salut,
à la
Isabelle.
Presse Plus, à l'émission de mon collègue Paul Arcand également. Patrick, qui a écrit d'ailleurs sur. Tu as écrit sur le sujet.
Oui, quelques fois, oui.
Et on s'en est parlé, puis j'entendais à travers les lignes que tu avais l'air très inquiet pour ton propre fils.
Inquiet comme je suis inquiet tout le temps à propos de tout.
T'es-tu un inquiet, toi, Patrick?
Oui, moi, je suis un inquiet. Tu sais, quand c'est l'hiver puis qu'il y a des déneigeuses partout, tu sais, je le prends par le bras puis je le enlève tes maudits écouteurs puis regarde pour les déneigeuses. L'état de parent, c'est l'état d'angoisse permanente. Donc, Ça, ça ajoute. Est-ce que j'ai peur qu'il devienne soudainement un pothead? Ben non, j'ai pas cette peur-là. Il y a 13 ans, mais ça fait partie des facteurs qui m'inquiètent dans sa vie.
Et en as-tu parlé avec lui?
Non, j'en ai pas parlé avec lui. Et j'écoutais Frédéric tantôt qui disait, bon, faut en parler. Toi-même, Isabelle, tu m'as posé la question en coulisses. En as-tu parlé avec lui? Les parents vont se reconnaître dans ce que je vais dire là. Essayer de parler avec un adolescent, c'est toujours compliqué. Parce que c'est un peu comme si tu sortais la pinte de lait et tu essayais d'avoir une conversation avec la pinte de lait. C'est extrêmement difficile de parler avec un adolescent, à moins que vous soyez chanceux d'avoir un adolescent loquace, à l'aise sur tous les sujets. Surtout quand tu arrives sur ces enjeux-là plus délicats, la consommation d'alcool, la consommation de potes, la sexualité. Essayez d'avoir une discussion de sexualité avec vos enfants. Frédéric disait, ben c'est l'occasion de s'asseoir sur le divan puis de jaser. Je veux bien, mais jaser dans ces enjeux-là, c'est souvent un monologue pour un parent. Ouais. Donc, bref, ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas. Ouais. Ça, je comprends. Mais quand
on parle devant lui, oui. Il y a 13 ans, bon, il doit connaître des gens qui fument si lui fume. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'il ne fume pas?
Écoute, j'ai aucune certitude. Le petit gars que je vois, il était un enfant il n'y a pas très longtemps.
Je vois sa gang
de chums. Ouais. C'est pas des gars qui cherchent le trouble. C'est des petits gars. En même temps, peut-être que je dis ça, puis que le soir, après l'école, les gars font des affaires qu'on soupçonne pas. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai comme découvert un. C'est pas un secret, mais un truc qu'il m'avait pas dit. Il m'a dit, écoute, il dit, des fois, avec les gars, on débarque un arrêt plus tôt, puis on va au Tim Hortons parce que le mardi, un spécial, c'est bang, tu sais. Fait qu'on part de là. Est-ce qu'il consomme? Je ne sais pas, mais ça m'étonnerait.
Docteur Sadler, justement, comment savoir si notre jeune consomme?
Écoute,
est-ce que ça,
il y a des signes. Il y a des signes à savoir quand notre jeune consomme. Il n'aime plus ce qu'il aimait avant. Il jouait au hockey, ça ne tente plus. Il était bon à l'école, ses notes baissent. Il a de la misère à se lever le matin. Il est marabout, il est irritable, il se fâche pour rien. Il a les yeux rouges. Il n'aime plus l'école, lui qui avait des bonnes notes avant. Il a changé ses amis. Son cercle d'amis se rétrécit, ses activités se rétrécissent. Là, on est vraiment dans un problème, OK? C'est pas juste la consommation, là, il commence à avoir un problème. Mais je veux revenir un peu à ce que Patrick a dit. Moi aussi, j'ai des ados, mais ils sont rendus 21, 19, 16, là. On peut parler avec des ados, mais c'est
à 11 heures du soir.
Ouais, dans la voiture.
Ouais, dans la voiture, c'est
quand
vrai.
On parle plus de nous autres, j'ai eu plus de succès à parler de moi puis mes difficultés que de leur dire des choses.
C'est ça.
Les ados, ils veulent pas se faire dire des choses. Et c'est drôle, ça me rapporte à comment est-ce que l'Église chrétienne a fonctionné au Québec pendant maintes années. Les religions, c'est des dogmes. Ils disent, tu vas faire ça, sinon tu vas aller en enfer. Fait que ça leur fait peur, puis les gens, ben ils se comportent bien, mais il y a rien d'intégré là-dedans. Quand c'est du dogme, il n'y a rien d'intégré. En Arabie Saoudite, si tu voles un Rolex, bien, on va te couper la main. Fait que tu peux te retrouver dans une table de restaurant, quelqu'un a oublié son cellulaire, puis il n'y a personne qui va le ramasser. Pas parce qu'ils sont honnêtes, parce qu'ils ont peur de se faire couper la main. Mm-hmm. Le dogme, c'est ça. Les enfants ont besoin de faire leur expérience. Ils ont besoin que leur sagesse leur appartienne à quelque part. Puis c'est peut-être une approche plus comme ça qui fonctionne avec nos petits.
Frédéric Fortier, qui est beau-père d'un ado d'un ado de 17 ans, c'est ça? Avec qui il a déjà parlé, d'ailleurs, de cette problématique de... Comment on aborde le jeune? Mettons, là, Patrick, là, il veut en parler ce soir à son fils de 13 ans. Comment il devrait s'y prendre?
Bien, pour ma part, personnellement, ce que j'ai fait chez nous, c'est qu'on a plus parlé du contexte de consommation, des raisons pour lesquelles on va consommer, que de la substance en elle-même. C'est facile de parler de la toxicité puis de dire que c'est une substance qui ne devrait pas être consommée parce que le cerveau, blablabla. Puis déjà, si on commence dans cet axe-là, l'ado va se fermer, va dire « Continue, mon papa, je vais juste te faire gagner des points en acquiesçant de ce que tu vas dire. » Par contre, en parlant de contexte sécuritaire, de gens de confiance avec qui on va le faire, de raisons pour lesquelles, de conditions dans lesquelles être pour que l'effet recherché soit atteint. Mais il n'y a pas d'absolu avec la drogue. C'est ce qui est embêtant, parce que si on pouvait dire que c'est tout le temps le fun, ben, probablement qu'il y a bien du monde qui serait gelé. Par contre, il y a des risques. Puis ça, c'est la portion la plus facile pour le parent de discuter. Les risques, bien sûr, souvent, pour une grande majorité de parents québécois bien, qui n'ont pas consommé, bien, on va associer la consommation avec seulement le risque. Est-ce qu'on peut parler d'effets recherchés? On parlait avec le Dr Sader de la variété des plaisirs aussi, de comment aller chercher le même effet de bien-être, de relaxation, de connexion avec les amis aussi. Si mes seuls amis sont rendus des amis consommateurs...
Ben, c'est parce que c'est ça qui arrive aussi, à un moment donné.
Ben, idéalement, oui. Ça semble.
Ouais.
Effectivement, puis c'est ce qu'on fait dans les écoles aussi. On va expliquer que normalement, une amitié ne devrait pas être déchirée par la simple décision de si je consomme ou non. Donc, ce qui est important de voir, c'est à quel besoin ça répond effectivement, puis de toutes les décisions de si je décide d'en prendre, avantage, inconvénient, si je décide de ne pas en prendre, avantage, inconvénient, parce qu'il y en a des deux côtés.
Mais est-ce que ça veut dire que les parents s'inquiètent pour rien, Patrick?
Oh boy! Moi, je suis convaincu, puis je l'écrivais dans la presse ce matin, ce ne sera pas l'apocalypse, OK? Ça fait de bonnes manchettes, ça fait de bonnes chroniques. Ça fait de bonnes discussions autour de la table que de se faire peur entre nous autres. Je pense que c'est vieux comme l'humain que de vouloir avoir peur. Mais c'est sûr que c'est l'occasion d'en parler. Mais est-ce que la drogue, cette drogue-là est déjà disponible?
C'est
sûr. Je veux dire,
et pour les jeunes, ça ne changera pas grand-chose d'ailleurs que la légalisation ou pas. Puisque,
non.
À moins que les parents achètent la drogue
ou
de leurs jeunes.
Via
la nouvelle société de cannabis. Donc, pour être sûr que c'est du bon stock comparativement à du stock de rue que tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont mis dedans.
Je ne pense pas qu'on s'inquiète pour rien parce que comme parents, des fois les inquiétudes sont fondées. Ceci étant dit, cette drogue-là existe, d'autres drogues existent. Ce qui est fascinant dans la discussion collective qu'on a eue dans les derniers mois, en fait, depuis l'élection de Justin Trudeau, et on savait que ça s'en venait, c'est un peu comme si, des fois, j'avais l'impression qu'on en parlait du pot comme si c'était pas disponible. Comme si le 17 octobre 2018, il allait avoir du pot soudainement dans la société. Hey, il y en a déjà partout.
C'est ça.
Donc, cet élément-là, je dirais, bizarrement, me rassure. Ça existe. Donc, pour moi, il n'y a pas énormément de choses qui vont changer sur la consommation là-dessus. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que soudainement, on va tous devenir des potheads, incluant les jeunes.
Ce qui va changer, par contre, c'est peut-être la perception des jeunes par rapport à la consommation du grand public. Pourquoi mon oncle Claude, il est allé prendre une marche dehors à Noël, puis là, il est en train de manger le buffet de Noël, il a les yeux rouges. Là, c'est parce qu'il fume du pot. Ah, mon oncle Claude, il fume du pot. Ah bon, là, c'est ouvert. Donc, les gens qui le faisaient le feront peut-être ouvertement. Et là, ça sera une belle occasion de dire, bon, ben effectivement, il y a des gens qui se mettent à le consommer de façon ouverte. Qu'en penses-tu, toi? Penses-tu que parce que c'est là, parce que Claude en prend, c'est une bonne idée pour Claude dans sa santé? Les gens ne sont pas idiots non plus. Dans les écoles, on leur demande, est-ce que c'est parce que c'est légal, c'est bon pour la santé, c'est une bonne idée? Puis les gens disent, ben non, la cigarette, c'est caché, c'est en arrière du comptoir. Secondaire 3, hier, dans une école, les gens disaient, ben non, c'est pas bon pour la santé. Mes parents me le disent depuis toujours. Donc, je sais que c'est pas une bonne idée. Il doit avoir des arguments économiques, il doit avoir des arguments de santé ou d'autres enjeux. Donc, les jeunes sont quand même au courant.
Les jeunes sont très au courant. Puis, ils ont l'argumentaire qui est pas piqué des verres là, pour en discuter avec des jeunes autour de moi. Dès qu'on leur dit, bon, l'histoire de dire « tu te brûles le cerveau jusqu'à 25 ans », chez certains jeunes, ça peut marcher. Disons que ça leur rentre un peu dans la tête, puis ils cheminent avec ça. Mais ils vont vite nous dire, ben regarde, tu bois de l'alcool, ça dérange-tu? C'est bien moins grave? Puis ils vont nous dire, par exemple, que les modèles qu'ils voient dans les fêtes, dans les parties, ça va être des jeunes complètement sous, qui se vomissent dessus, qui sont là, qui sont des lavettes, qui sont plus capables de réagir, alors que ceux qui fument du pot, c'est pas eux qui ont perdu le contrôle.
Mais il y a une grosse
différence. Intéressant, ça, je trouve.
C'est vrai, mais il y a une grosse différence. Par exemple, on a la cigarette, mais la cigarette, c'est un stimulant léger, puis on ne s'intoxique pas. Vous avez jamais vu quelqu'un fumer 8 paquets de cigarettes puis pass out. Ça ne se fait pas. Facilement, 85% des gens qui consomment de l'alcool consomment pour le goût et arrêtent après 2 ou 3 consommations. Ils n'ont pas l'effet, ils n'ont pas la génétique pour avoir l'effet « wow ». Ou ce n'est pas des grands anxieux qui boivent trop pour se calmer, pour s'automédicamenter. Le cannabis, c'est la première fois qu'on permet la légalisation d'une substance qu'on ne consomme que pour s'intoxiquer. Ça, c'est très différent comme principe.
S'intoxiquer ou...
Ouais. Parce que pour avoir un effet.
L'alcool aussi, Dr. Sadler.
Ouais, pas tout le monde boit de l'alcool.
Le café aussi.
Oui, mais ce n'est pas intoxiquant. Tu ne perds pas tes moyens. À la rigueur, café, on améliore nos moyens.
Je lisais une étude américaine hier pour la chronique d'aujourd'hui là, sur la conduite automobile. Et il semble qu'une consommation modérée de cannabis, c'est à peu près l'équivalent d'être entre 0,1 mg d'alcool dans le sang jusqu'à 0,5, ce qui est l'équivalent d'un 5 à 7 où personne n'a dérapé. Je vous avoue, Doc, là, j'ai de la misère à...
0,1, ça veut dire que je ne peux pas contrôler.
Un peu plus. Il me semble qu'un joint, puis je vous dis, je ne suis pas fumeur, un joint, ça doit être l'équivalent d'à peu près deux coupes de vin. Je ne suis pas sous, j'ai une petite tentation de bien-être, un peu cocktail.
Mais peut-être. Tu ne peux pas conduire.
À deux verres de vin, tu peux.
Non. Écoute, moi, j'ai fait un test. Je te jure que non.
Ça dépend du format.
Et moi, j'ai été étonnée. Puis d'ailleurs, je veux les bouquins en studio. Il faut qu'on aille à la pause, ça. On va aller à la pause parce qu'il y a du monde qui veut intervenir. D'ailleurs, ça tombe super bien parce que je veux vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a juste Pat Lagacé puis moi qui sommes un peu inquiets? Et le docteur Sadler aussi. Frédéric, toi, ton niveau d'inquiétude, il se situe à quoi?
Comme je suis un intervenant, j'aime bien être capable d'en jaser, mais voilà. J'ai quand même une préoccupation.
Voilà. Ah, ça, c'est bien dit. Nous sommes préoccupés. Nous sommes sérieusement préoccupés. Voilà, exactement. Une chose à dire très importante, il faut garder le canal de communication ouvert avec nos jeunes, avec nos ados. Moi, j'ai lu des parents qui me disaient, depuis les dernières semaines, j'ai pris le téléphone cellulaire de mon enfant, de mon jeune. J'ai interdit de sortir le soir. Les barrer dans la porte, là, vous n'allez quand même pas attacher vos jeunes. Là. Ça ne marchera pas. Vous allez juste vous faire haïr plus, puis ils ne voudront pas vous parler. Fait que le mieux, c'est essayer de jaser, puis d'avoir l'air un peu au-dessus de nos affaires. T'sais, genre, on en parle, mais on n'en parle pas vraiment comme si on voulait leur faire une leçon. Non, mais on se passe des trucs. T'sais.
Hey, on a tous les mêmes trucs.
On se passe des trucs. T'sais. Puis il faut le faire. Tard le soir, c'est ça, leur horloge biologique. Là. Avant les nouvelles de 10 heures, c'est jamais bon. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous joindre, bien sûr, pour nous dire comment vous voyez ça. Est-ce que vous avez peur que vos jeunes se mettent à fumer du cannabis s'ils ne fument pas? Et si vous avez déjà des jeunes qui consomment, est-ce que vous êtes capable d'en parler avec eux? Êtes-vous capable de gérer, entre guillemets, leur consommation? 514-790-9850. Vous pouvez nous joindre partout au Québec en faisant le sans frais. 1-866-790-9850. À tout de suite. Est-ce que vous avez peur que vos jeunes se mettent à fumer du cannabis, puisque depuis 10 heures ce matin, les magasins officiels de la Société québécoise de cannabis sont ouverts. Et là, c'est parti, c'est officiellement légal. On aura l'occasion d'ailleurs, d'ici une dizaine de minutes, de retourner sur le terrain avec notre reporter Annie Guillemette qui nous dira un peu ce qu'il en est dans la file d'attente. Le monde attend en ligne, pouvez-vous croire, en tout cas. Bon, Patrick, bonjour.
Bonjour.
Comment vous voyez ça, vous?
Ben moi, j'ai une question très spécifique pour Patrick Lagacé.
Oui.
Si ton jeune de 15 ans ou 16 ans, il t'annonce qu'il fume du cannabis aujourd'hui, puis que là, il dit pas, je vais continuer à en fumer même si tu veux pas. Puis là, est-ce que je continue à acheter de la drogue non contrôlée ou t'aimes mieux que ton jeune fume de la drogue contrôlée? Mm. Est-ce que tu vas y aller y acheter son pot de 30 grammes ou tu vas le laisser fumer de la drogue non contrôlée? Parce que ton jeune, il vient de te dire qu'il va fumer même si tu veux pas. Ça, c'est une situation à la maison que là, on est en train de vivre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que si tu dis non, il va s'en aller.
Y avez-vous pensé, vous, Patrick? Vous êtes en train de débattre de ça? Là. C'est ça, hein?
Ben oui, on est en grosse discussion.
Ben moi, j'y songeais sincèrement, puis je t'en parlais plus tôt ce matin. Je disais peut-être que c'est ce que les parents ont de mieux à faire. Qu'est-ce que t'en penses, Patrick?
Réponse, quitte à mettre dans une situation d'illégalité, puis on en est pas là.
Ben oui, parce qu'en
là,
théorie, on n'a pas le droit d'acheter de la drogue pour un jeune qui est mineur.
Réponse, ben peut-être que ça traînera, puis qu'il prendra. Parce que la réponse, Patrick... Moi, je vais. La réponse est dans votre question. C'est-à-dire que on sait que le cannabis étatique, c'est drôle de dire ça, le cannabis étatique a plus de chances d'être mieux contrôlé que ce qui est vendu dans la rue. On sait qu'il y a moins de chances que ce soit coupé avec de la merde et des substances toxiques. Donc, la réponse, c'est évidemment que je préfère que s'il est pour consommer, même à dos, qui consomme du cannabis. Ouais.
Docteur Sadler,
je suis désolé. Ouais. Je vais mettre mon chapeau de thérapeute, de médecin là, qui soigne ces gens-là.
Ouais.
Moi, je ne me laisserai pas guider par la peur. Si mon fils a une relation avec le cannabis tellement forte qu'il va mettre son père dans une situation d'illégalité pour pouvoir avoir son joint et risquer que son père aille en prison, ben moi, je mets mon pied à terre et je dis, sais-tu, je pense que j'appelle la DPJ puis tu sors de chez nous. Moi, je mets mon pied à terre.
C'est un peu rêve, vous trouvez pas?
Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se faire.
Dans la vie,
si on protège trop, on finit par prolonger les conséquences à long terme.
Je suis fan du tough love avec les enfants, sauf que prendre, je préfère oublier du cannabis d'État sur la table de la cuisine que de l'envoyer en centre d'accueil.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair pour moi aussi. Mais je comprends votre position, Dr. Sader, parce qu'on on va revenir sur le potentiel de développement de psychose et tout. Hier soir, j'écoutais Denis Lévesque, il y avait deux mères complètement effondrées qui racontaient leur difficile chemin de croix. Ça fait cateau dire ça, mais à travers l'intoxication de leurs jeunes. Il y en avait, c'était une fille, là, c'était un garçon, c'était tentative de suicide, automutilation, tout ce que vous voulez de misère mentale. Vous allez dire, ben oui, ils ont des problèmes de santé mentale. Il n'y en avait pas avant de fumer du pot. Donc, tu sais, après, est-ce que toute chose étant égale par ailleurs, il n'y a peut-être pas que l'élément pot? Frédéric peut intervenir là-dessus. Frédéric Fortier, tu es en contact avec plein de jeunes. Ça peut être pour beaucoup de jeunes un élément déclencheur. Alors, on revient à la question de Patrick, notre auditeur.
Oui, je vais...
Sur ce point-là, que doit faire le parent? C'est une vraie question qu'il pose,
moi,
Patrick.
J'aimerais bien apporter, essayer de trouver une nuance entre les deux, mes deux collègues
ici. S'il y en a une.
Moi, chez nous, ma fille à 16 ans m'a demandé, tu peux-tu me sortir de l'alcool? C'est ma fête, j'aimerais ça. Ah. Écoute, ce que je comprends, c'est que tu consommes de l'alcool. Chez nous, ça ne me tente pas de cautionner ça, mais ça ne veut pas dire que je comprends, que je ne voudrais pas que tu en consommes. Par contre, j'imagine que tu es assez créative pour t'en trouver. Donc, je vais te souhaiter une belle soirée de fête. Quand tu seras chez nous, ça sera un gâteau et des chips et de la liqueur.
Je suis étonnée que tu dis ça, Frédéric.
Pour le cannabis, ça va être la même chose. Ouais. Moi, j'irai
pas en
acheter.
Mais c'est pas hypocrite, ça?
De?
Genre, je te vois pas, fait que si tu fumes du pot, tu peux boire de l'alcool, mais je le sais pas.
Mais je veux qu'on s'en parle. Par contre, chez moi, il y a des règles. Ça ne me tente pas que ça se passe chez moi.
Mais tu préfères que ça se passe ailleurs?
Je préfère qu'on s'en parle. Qu'on parle
mais ça va se passer ailleurs.
C'est assurément, dans vie, je veux dire, notre enfant sera
tout le temps. Moi, j'aime mieux que ça se passe chez nous.
Consommer. Ben, ouais. Possible. Mais là, on a deux écoles de pensée. Il y a des parents qui disent, ben moi, les parties, quand les parents tolèrent qu'il y a des parties avec de l'alcool et des débordements, ben c'est à cause de parents comme vous que les enfants consomment.
Je sais, c'est pas facile.
Puis t'en as d'autres qui vont dire, je veux pas que ça soit chez nous, je préfère que ça soit ailleurs. On essaie de trouver un entre-deux. J'accepte donc que tu consommes parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre de toute façon? Je peux pas te mettre dans un coffre de cèdre puis attendre que tu aies 25 ans.
Mais ça, c'est pareil avec. Puis ça me fait penser à l'époque, vous savez, les parents qui disaient, mais moi, mes enfants, ils baiseront pas à maison avec leur chum. Tu préfères-tu que ton enfant, enfant de guillemets, que ton jeune, baise dans un char, dans une auto? Tu sais, à un moment donné, il y a ça, là. Qu'est-ce qu'on préfère pour nos jeunes, Patrick Lagacé?
Oh, un vieux souvenir, Patrick.
Oui, ça y a parlé, ça, cet exemple-là.
Quelle marque?
J'étais ado.
C'était-tu hatchback? C'était-tu hatchback?
Une Ford Escort et la police est arrivée dans le champ. Fait que j'étais ado, ma mère voulait pas que ma blonde traîne à la maison quand elle était pas là. Fait que qu'est-ce que tu veux?
Ben c'est ça. Ben c'était facile à repérer.
On a trouvé un autre endroit.
Les voitures qui avaient de la buée, c'était ça. Là, ça va être de la boucane.
Mais tu pognes de quoi quand la police, les gyrophares surviennent à un moment que tu n'attendais pas. Mais là-dessus, sais-tu quoi? Je pense qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Tu comprends? Tu prends une cuillère, tu la laisses tomber partout sur Terre, elle va tomber, c'est la loi de la gravité. Mais dans le cas de l'éducation, des relations avec les enfants...
Non, mais là, il y a la question de l'égalité.
Ce que Frédéric...
Oui, c'est regarde. Illégal pour un jeune, c'est légal pour l'adulte.
Mais écoutez, juste une affaire. Je veux dire, la police n'a pas une caméra dans votre salon. Il y a plein de parents qui laissent leurs enfants, les enfants boire. C'est illégal. J'ai pas souvenir qu'il y a des centaines, des milliers de poursuites aux criminels là-dessus. Je dis pas, allez-y, faites-le, c'est pas grave. Ce que je dis, c'est l'argument de la police, là, il y a quand même ses limites.
Je comprends, Frédéric. Mais moi, ce que je veux pas exposer à mon enfant, c'est que je vais me mettre dans un contexte illégal et
je
donc
comprends.
De banaliser l'acte. Mais
ouais,
ça reste que c'est le parent
ça.
Qui décide ce qu'il fait chez lui.
Mais c'est ça montre à quel point
absolument.
C'est délicat.
Absolument.
C'est délicat. Là, on est comme... D'où l'hypocrisie.
Lorsqu'on laisse nos enfants ados boire à la maison, est-ce qu'on les laisse s'intoxiquer jusqu'à tomber par terre puis vomir ou est-ce qu'on les laisse prendre un ou deux verres de vin? Mm-hmm. C'est pas pareil,
absolument.
Numéro un.
C'est
numéro
vrai.
Deux.
Ouais.
Patrick, comment vivrais-tu avec ton toi-même si ton enfant est un des rares qui fait une psychose toxique avec le cannabis que tu lui as acheté?
Oh mon Dieu, il va paniquer pendant
absolument, je serais, John, je serais catastrophé. Ouais. Sauf que je sais aussi que cette drogue-là existe. Il pourrait faire une psychose toxique avec ou sans mon aide, entre guillemets.
On a justement, c'est Stéphane qui nous appelle, dont le fils a fait une psychose toxique. Bonjour Stéphane.
Oui, il y en a fait plus qu'une. Bonjour. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'avais un petit garçon super sportif, tranquille, à sa place. Son seul défaut, c'est qu'il avait besoin d'être accepté par ses amis, là, un besoin d'amour. Et bon, c'est ça, ça a commencé comme ça, avec une première psychose qui a levé le drapeau. Je l'ai confronté plusieurs fois, puis ils sont capables de mentir en regardant dans les yeux, là, avec des yeux tellement intenses que j'ai réussi à me convaincre. Finalement, le doute a persisté, j'ai fait venir une compagnie d'infirmières privée, qui une visite surprise, et c'est comme ça que j'ai détecté qu'il était consommateur. Puis, ce qui est ironique dans ça, c'est que...
Ah, oh, vous l'avez testé carrément?
Oui, oui, ça a coûté 600 $, j'ai fait faire les tests. Je l'ai confronté avec ça maintenant, j'ai dit « tu peux plus me mentir ». Et la seule façon, c'est ça qui est ironique, que j'ai réussi à l'amener en désintox à l'époque, ça fait quand même quelques années, c'est en le menaçant de dire « est-ce que tu attends d'avoir un dossier criminel qui va ruiner ta vie, tu n'auras plus le droit de conduire, tu n'auras plus le droit de rien faire, tu n'auras plus le droit de voyager ». C'est la seule façon que j'ai réussi à l'amener en désintox. Puis je trouve ça je trouve ça triste aujourd'hui que, bon, on banalise ça comme si c'était n'importe quoi, puis on met ça, puis surtout qu'on met ça au même niveau que l'alcool. Moi, je ne peux pas croire qu'un six-pack de bière va faire faire une psychose à des enfants. Ça, je le crois pas. Fait que de mettre ça au même pied d'égalité, là, ça me renverse. Surtout que j'ai perdu mon fils, là. Il n'est pas décédé, là, mais c'est...
Et j'allais vous demander, il va comment aujourd'hui?
Bien, le docteur peut le dire, là. C'est exponentiel, là. Tu fais une psychose, tu fais une deuxième, la troisième est toujours plus grosse. Puis après ça, tu deviens ultra sensible à ça. Fait que maintenant, il est sous médication. On s'entend-tu que c'est plus le même petit gars, hein?
Écoutez, on est vraiment de tout cœur avec vous. J'aimerais que vous restiez en ligne, s'il vous plaît, Stéphane. On va aller à la pause là-dessus. Merci beaucoup de votre témoignage. Je pense que ça parle à beaucoup de parents. On va revenir tout de suite après ceci. Bien sûr, toutes nos lignes sont pleines. Je dois vous dire qu'on va vous donner la parole le plus possible pour répondre à cette question. Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous craignez que vos jeunes se mettent à fumer du cannabis? Ceux qui fument, il y en a beaucoup là, des parents dont les jeunes fument, que vous le sachiez ou non. Avez-vous l'impression qu'à un moment donné, vous êtes capable ou incapable de gérer leur consommation? Avant d'aller plus loin avec vos commentaires, chers amis, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous appeler au 514-790-9850. Allons retrouver notre reporter Annie Guillemette qui est sur le terrain. Bonjour Annie.
Bonjour Isabelle.
Est-ce que ça attend toujours en ligne?
Oh oui, ça attend toujours en ligne. En fait, la ligne d'attente à la succursale où je me trouve sur la Plaza Saint-Hubert fait un pâté de maison. Donc, tout juste avant l'ouverture, il y avait à peu près 250 personnes qui attendaient. Les premières personnes sont arrivées à 3h30 cette nuit, Isabelle. Il y a des gens qui voulaient vraiment effectuer des achats ce matin. Et là, ben, il y a encore des gens qui arrivent sans arrêt. À l'intérieur, ça roule quand même très bien. J'y suis allée dans les premiers clients, là.
Est-ce que le mobilier est installé? Est-ce que tout est fait? La déco est finie?
Oui, la déco est toute faite parce que c'était la succursale qu'on avait visitée hier. Donc, elle était déjà prête hier, cette succursale-là. Aujourd'hui, on a eu le même décor avec en prime les employés. Qui sont très rapides sur la gâchette pour venir nous conseiller. J'ai posé plusieurs questions sur des produits que je connais pas du tout, Isabelle, de l'huile de cannabis, des choses comme ça. Et on m'a vraiment donné beaucoup de conseils. Et ensuite de ça, lorsqu'on veut effectuer des achats, on nous prépare les petites boîtes. On l'a dit beaucoup depuis hier, hein, les produits sont tous pré-emballés, donc il n'y a même pas d'odeur de cannabis à l'intérieur de la boutique.
Mais dis-moi, Annie, j'imagine te demander aux gens quel est l'intérêt d'attendre en file depuis 3h30 de la nuit. Est-ce qu'il y a un effet? Bon, c'est la nouveauté. Les gens veulent avoir l'impression de vivre ce moment qui est quand même assez historique, là, la légalisation de du cannabis au Canada. Donc, chacun veut son petit paquet en mémoire de cette journée?
Effectivement. Les gens qu'on avait avec nous ce matin très, très tôt, ce sont vraiment des consommateurs qui voulaient vivre cette journée-là, être dans les premiers et aussi avoir le produit qu'ils voulaient. Parce que beaucoup de gens s'étaient renseignés, ils voulaient avoir tel ou tel produit. On sait qu'ils ne sont pas encore tous disponibles aujourd'hui.
Ouais.
Il y en a 110 sur les 180 qui seront disponibles un peu plus tard à l'institut. Donc, des connaisseurs qui étaient là et qui voulaient quelque chose de bien, bien, bien précis.
Merci beaucoup, Annie Guillemette, pour cette mise au point. Puis, on va écouter tes reportages au cours de la journée. Annie Guillemette, qui est reporter à Cogeco Nouvelles. On a Paul avec nous, qui est une mère d'un jeune, justement, qui consomme du cannabis. Bonjour, Paul.
Oui, bonjour. Écoutez, vous avez parlé tout à l'heure d'écoute. Je pense que c'est la partie la plus importante, la partie clé. J'ai régulièrement des discussions avec mon garçon, je dirais presque tous les jours, garçon de 18 ans. et je sais qu'il fume, je l'ai vu fumer, je suis pas d'accord, je trouve ça triste, on parle des de tous les jours de comment ça peut affecter son cerveau, d'autant plus qu'il y a un TDAH et il y a risque de psychose et de tout ça, on est tellement au courant, lui aussi, évidemment il y a des bons arguments d'ado, mais ce qui est intéressant, c'est que ses amis avec qui il fume n'ont personne à qui en parler, ils ont des parents qui les terrorisent, donc moi, j'ai commencé un petit groupe Messenger et en fait, à chaque fois que je trouve des nouvelles avec ses amis, ils sont peut-être 7-8 sur le groupe, j'envoie des articles, j'envoie... Et puis là, ben, ils me répondent, puis on a comme une discussion
sur
Messenger. Ouais, et puis... Et
mon Dieu, c'est bon, ça! Wow.
Ben oui, tu leur dis, c'est encore moi, je suis tannante, mais c'est parce que je vous aime, les gars.
Oui, parce que d'habitude, c'est assez hard de faire ça, Paul.
Ouais.
Les jeunes veulent pas qu'on soit amis Facebook avec eux ou sur leur Instagram.
C'est ça. Donc, je trouve que le dialogue, finalement, c'est la chose la plus importante. Ouais. On n'a pas le contrôle. Moi, mon gars, il me dit que, maman, ça changera absolument rien que ce soit légal.
Ouais.
Nous autres, on sait où on la trouve. Puis la nôtre, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Bon, ouais. Évidemment, ils ont tous les arguments. Mais comme parent, je trouve que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avoir un dialogue franc, ouvert.
Et à cette question, Paul, rapidement, parce que Jean-Marc, à qui on va parler, qui a deux ados, à cette question que posait Patrick tout à l'heure, notre auditeur, à savoir qu'est-ce qu'on fait là, comme parent, est-ce qu'on risque d'être dans l'illégalité, ce qui était notre débat, là, on n'était pas forcément d'accord autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait comme parent? Est-ce qu'on préfère... pas savoir ce qu'il fume ou avoir des produits du cannabis gérés par la Société québécoise de cannabis bien emballés dans des petites boîtes?
Oui, en fait, ça, c'est une bonne question. Moi, les jeunes me disent que c'est une question de prix et puis que ça va toujours être moins cher au noir. C'est ce qu'ils me disent. Est-ce qu'on leur... Puis là, maintenant, la qualité, moi, je peux pas l'évaluer. Mais moi, c'est sûr que les conversations sont pas finies. Je vais en avoir, je vais continuer de l'avoir tous les jours.
Ouais.
De vouloir fouiller puis de comprendre.
Ouais.
Puis de m'intéresser et surtout de les aimer.
Ouais, tout à fait. Merci, Paul, de ce beau témoignage. Hein, Frédéric, c'est ça le. Ça qui est important.
Absolument. En fait, ce qui est important, et quand on dit écouter nos enfants, là, ça ne veut pas dire que ça va être facile et agréable. Hein. Ça se peut que nos oreilles saignent parce qu'ils nous disent des choses qu'on ne veut pas entendre parce que nous, on a un cerveau qui est complété, qui est mature et on est plus souciant des conséquences.
Ouais.
Les ados sont dans pensée magique, mais en même temps, si on n'a pas ce dialogue-là, et ça fait comme justement la dame vient de dire, ben, des gens qui n'ont personne pour se référer ou pour aller valider.
C'est effectivement ça. Jean-Marc est avec nous. Bonjour Jean-Marc, vous avez deux jeunes chez vous?
Oui, bonjour. Écoutez, j'ai trois garçons.
Ouais.
Sur les trois, les deux derniers, l'un qui a tombé en dépression le plus jeune, le deuxième, il a fait une grosse psychose, il était 3 mois à l'hôpital de La Fontaine. Le troisième a fumé, les trois allaient à l'école privée, les trois ont lâché. Puis, je suis en désaccord ce matin avec Patrick qui disait qu'un gramme équivaut à 2 verres de vin, peut-être. Écoutez, on était dans une fête à un moment donné, on était des adultes, ma femme n'a jamais vraiment touché à ça. Une pof, à la partie, je l'ai perdu de la soirée.
Mm-hmm.
Avec 2 verres de vin, ça n'aurait pas arrivé, jamais.
Ouais.
Vous comprenez? Puis, quand j'étais jeune, j'ai fumé. Je prenais de la boisson chez mon père, la boisson était légale, on prenait une bouteille de boisson dans le bar, on s'en allait à l'école avec ça. Mais là, aujourd'hui, les jeunes vont faire quoi, là? C'est légal? Ton parent, il va avoir laissé ça à la maison, peut-être à la main des jeunes. Tu pognes ça, tu vas aller fumer. Non. Puis, en plus. Si
mais le pocheur est dans la cour d'école, Jean-Marc. Le pocheur,
oui.
Il leur envoie des textos sur leur téléphone cellulaire. C'est ça, la réalité, là.
Ah oui, puis des fois, les jeunes sont un peu mal pris pour payer, puis ils vont dire, ben là, si tu m'en vends, ça va payer ta consommation. Puis, j'aime pas vraiment.
Ils ont quel âge, vos deux? Ils ont quel âge, vos deux fils?
Les garçons, maintenant, ils sont rendus à 32 ans. Celui qui a fait une psychose 3 mois, il fume encore.
Ouais.
Le plus vieux a lâché par lui-même, puis le plus jeune aussi. Le deuxième, j'ai pensé le perdre à un moment donné. Hein. Vraiment plus là dans sa tête.
Ouais. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci bien, Jean-Marc. Docteur Sader?
Mais c'est malheureusement des choses qu'on voit. Hein. C'est peut-être parce que monsieur a consommé, il n'a parlé à... Juste parler à ses enfants, dire que j'ai déjà consommé, ça ouvre la porte un peu, ça banalise un peu, puis regarde, papa est correct. Fait que les risques sont pas pareils pour tout le monde. On a de la difficulté à savoir quel jeune est plus à risque pour les psychoses, quel jeune est plus à risque pour la dépendance. Ça, c'est d'autres choses. Pas tous les jeunes fumeurs de cannabis qui vont devenir dépendants. Chez les adultes, c'est à peu près 10 % qui deviennent dépendants. Chez les jeunes, c'est autour de 20-30, dépendant des études, puis de la force du cannabis auquel ils sont exposés.
20-30 % des...
20-30 avec le nouveau cannabis, puis avec des formes encore plus fortes qui existent, qui sont rendues à la mode maintenant, d'après ce qu'on me dit ce matin. Il y a une forme de cannabis qui s'appelle wax, et le wax cannabis est 99 % THC. 80, on n'est plus dans le 13 % vendu dans la rue ou vendu chez la Société québécoise de cannabis. On est avec...
Et ça, c'est 20 à 30 % des jeunes qui fument peuvent développer des psychoses,
oui,
c'est ça que vous dites?
Des psychoses et des dépendances. Et quand tu es dépendant, le problème, c'est que, tu sais, on parle, on est dans l'intelligence présentement. On parle avec notre tête. Et, bien, l'enfant, il sait qu'il ne faut pas qu'il conduise en état d'intoxication. Ça, c'est bien beau, ça. Mm. Mais une fois que le jeune de 22 ans est intoxiqué, son cerveau intelligent ne pense plus de la même façon. Mm. Et là, ce qui m'horripile à quelque part, c'est qu'il va prendre son char parce qu'il est intoxiqué et il va être puni très sévèrement, beaucoup plus sévèrement qu'avant, pour quelque chose que l'État lui a
permis.
Un peu permis.
Oui, tout à fait.
Mais donc l'État doit...
Mais on peut dire la même chose d'alcool.
Faire attention. Oui. Non, l'État ne dit pas « intoxique-toi ».
Non.
L'État dit wow. L'alcool est toléré, la grande majorité...
Mais l'État dit « bois modérément ».
En quoi est-ce que l'État dit « intoxique-toi » avec le cannabis? Je veux dire, il n'y aura même pas de promotion.
Oui, les amis, il faut qu'on aille à la pause. L'alcool. Absolument. On va à la pause, on revient tout de suite. Avant notre dernier tour de table pour la conclusion de notre sujet sur le cannabis, on va parler à Stéphane. Bonjour Stéphane. Vous, c'est pas tellement le cannabis, la marijuana qui vous inquiète, c'est tout le reste.
Oui, moi, c'est les vivances, toutes les pilules prescrites par les médecins, le Ritalin, les pilules dans les parties, tout ça.
Oui, toutes les autres...
Il faut arrêter de faire l'autruche. Là, les jeunes sont aux pilules, là, sont pas aux potes.
Oui, merci. Merci beaucoup. Docteur Sader?
Écoute, il y a des gens pour qui c'est approprié, puis il faut faire un job comme il faut comme médecin.
Il y a de la
détournement de médicaments, c'est sûr. Il y en a qui lisent des livres, qui vont fausser le médecin, qui vont raconter toutes sortes de choses, puis qui vont revendre leurs pilules pour payer leur loyer là, à l'université. Ça se fait. Mais le médecin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a pas de prise de sang. Il prend le risque de ne pas traiter quelqu'un qui mérite d'être traité ou de... Des fois, d'être exposé à du détournement, on est coincé des fois.
En conclusion, je vais vous entendre tous sur qu'est-ce qu'on doit dire à nos jeunes aujourd'hui. Là, ça y est, là, c'est légal, mais ça ne l'est pas pour les 18 ans et moins. Puis on le dit, 25 ans et moins, pas toujours une bonne idée. Frédéric Fortier, vous êtes directeur de l'organisme en prévention des dépendances, l'Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que vous dites aux parents aujourd'hui?
C'est pas simple en 15 secondes, mais les jeunes seront toujours à la recherche de sensations. Les parents ont une inquiétude tous les jours. Leur travail, c'est de développer l'autonomie, de développer l'intelligence. Fiez-vous à votre enfant. Dites-vous que votre enfant est intelligent. Aimez-le, écoutez-le, soyez empathique à sa cause. Il faut garder la relation. Si on veut juste aller dans des contextes de contrôle, on perd le fil, le savon nous glisse dans les mains. Donc, on peut, encore une fois, comme je disais tantôt, c'est pas simple à entendre comme information, comme intérêt, comme recherche de sensation. Mais si on l'a pas, ce canal-là, ça va se passer ailleurs, puis ça sera à notre insu. Donc, gardez le canal ouvert.
Oui. Docteur Sader?
Pour moi, ça commence avec l'amour, puis le respect, puis le discours, puis des lignes de communication ouvertes. Ça commence bien avant 12-13 ans. Pour moi, ça commence quand ils sont tout jeunes. C'est leur opinion, les encourager vers être dépendants, ceux qui sont à l'intérieur, l'indépendance, l'autonomie, se nommer. Moi, je veux être comme ça. Avoir le courage de ses convictions, de ne pas trop vouloir plaire à tout le monde tout le temps, puis de suivre le courant. Des fois, il faut suivre, puis des fois, il faut aller contraire, puis des fois, il faut aller de biais, puis qu'il y ait cette autonomie-là. Quand on fait ça, on l'équipe. C'est comme si on lui donnait un arc, puis un couteau, puis une lance. Puis... Parce qu'un jour, il va être sur la montagne de la vie tout seul.
C'est ça.
Vous n'allez pas être là pour le protéger, puis il va falloir qu'il sache se défendre.
Belle en parler avec ton jeune.
Belle image, la montagne de la vie tout seul. Ouais. Écoute, oui, mais comme en toute chose, tu sais... Pour ce qui est des drogues, et j'inclus l'alcool là-dedans, c'est de... Moi, mon approche, ce sera de ne pas diaboliser puis de ne pas banaliser. et dire « je suis là », puis d'essayer d'y parler, même si c'est comme parler une pinte de lait, il y a quand même des choses qui rentrent dans les oreilles.
Les études le disent, les parents, on pense qu'on n'a plus de poids sur nos enfants, c'est pas vrai. On est encore, assez tard, la plus grande et la première influence, même avant les amis. Fait qu'on lâche pas. Hey, merci beaucoup à vous trois.
Merci
bien.